Je lis pour vous.
Lecture vagabonde de Hélène Vignon sur Radio Alliance Plus. Lire, un plaisir qui se partage.
Hélène Vignon pour Radio Alliance Plus. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En ce début de lecture du livre Le cerf-volant de Laetitia Colombani aux éditions Grasset, Léna est en proie à des moments difficiles. Elle était venue ici pour chasser le souvenir du choc que la mort de François avait été, mais elle n'y arrive pas. Seule la perspective de retrouver Lalita et Priti lui donne la force de se lever. Chaque jour sur la plage pour Lalita et deux fois par semaine au garage, l'occidentale du quartier, comme certains la nomment, enseigne et elle est maintenant bien acceptée. Dans le garage des Red Brigade, elle remarque un portrait de femme et Priti lui fait connaître Usha, celle qui a fondé justement les Red Brigade. Et là, elle lui en parle. Elle profite pour lui expliquer les conditions de la femme en Inde. Écoutons ce qu'elle lui dit. Chapitre 8. Le rêve revient chaque nuit et l'éveille en sursaut. Léna reste quelques instants suspendue, flottant entre deux eaux, entre deux mondes, entre deux vies, celle d'avant et celle d'ici. Dans cet interstice où la réalité la dispute au sommeil, elle est encore là-bas, au collège, auprès de François. Elle est alors saisie de l'impression fugace qu'il suffirait d'un rien pour revenir en arrière, inverser le cours des choses. Hélas, le jour s'impose dans sa triste évidence. Il n'y a pas de fin heureuse au film qui s'est joué devant elle. Pas de salut, pas d'échappée. Durant la journée, Léna tient ses démons à distance. Mais ils ressurgissent dans l'obscurité, la grippe, et la ramènent à cet après-midi de juillet, au drame. Elle revit chaque seconde, comme si ses sens aiguisés en avaient capté les images, les odeurs, les sons, pour les lui restituer intactes, dans une effroyable précision que n'émousse ni le temps ni l'éloignement. Au petit matin, elle est tentée de s'enfouir à nouveau sous les draps et d'y rester. Seule la perspective de retrouver Lalita et Priti lui donne la force de se lever. Elle se rend chaque jour sur la plage et deux fois par semaine au garage pour les leçons d'anglais. Elle prend peu à peu ses marques dans le village. Les gens du coin s'habituent à la voir circuler. Elle est en quelque sorte l'occidentale du quartier et ce statut lui plaît. Il lui octroie de menus avantages, dont celui de bénéficier du chai à volonté. Les enfants en particulier manifestent à son égard une vive curiosité. Ils s'approchent parfois par grappes, désignant le plus déluré d'entre eux pour venir l'aborder. Léna se prête volontiers au jeu. Faute d'une langue commune, la discussion se limite à l'échange de prénoms, avant que la flopée de gamins se disperse comme une volée de moineaux effarouchés. Priti ne lui pose jamais de questions. Elle ne lui demande pas ce qu'elle fait là, seule, à des milliers de kilomètres de chez elle, ni ce qui lui est arrivé. Léna lui sait gré de sa discrétion. Chaque soir à la tombée de la nuit, la jeune femme installe le charpoy et prépare le thé. C'est une cérémonie qu'elle partage, dans une complicité muette qui, peut-être, cache le balbutiement d'une amitié. Léna savoure ce moment comme un peu de temps retrouvé, un peu de douceur après l'horreur. Elle remarque un soir au fond du garage un petit portrait accroché au mur, unique ornement du décor minimaliste. Une femme d'une trentaine d'années fixe l'objectif, les bras croisés. Elle ne sourit pas. Son visage exprime un mélange de détermination et de défiance que sa posture ne manque pas d'accentuer. Un peu plus âgée que Priti, elle pourrait être sa sœur ou l'une de ses amies. Devant l'air intrigué de Léna, la jeune femme rompt le silence. Il s'agit de Usha Vishwakarma, explique-t-elle, la fondatrice des Red Brigades, une rencontre qui a changé sa vie. Originaire d'un faubourg pauvre de Lucknow, Usha, comme la nomme familièrement Pretty, a été victime d'une tentative de viol à l'âge de 18 ans. Constatant le nombre effarant d'agressions sexuelles autour d'elle et le peu de réaction de la police et des autorités, elle a décidé de réunir un groupe de volontaires pour assurer la sécurité des femmes de son quartier. Ainsi est née la première Red Brigade. Exclusivement féminine, sa troupe s'est formée aux arts martiaux. Elle s'est mise à patrouiller dans les rues, de jour comme de nuit, intervenant en cas de harcèlement et de violence sur les filles qu'elle croisait. Au fil des témoignages qu'elle recueillait, Usha a vite compris que les arts martiaux traditionnels n'étaient pas toujours efficaces en cas d'attaque. Elle a alors entrepris de développer sa propre technique, baptisée Nishastrakala, littéralement « combat sans armes ». Celle-ci est basée sur une vingtaine de gestes permettant de neutraliser en moins de 20 secondes le plus coriace des assaillants. Ralliant à sa cause des hommes de bonne volonté, Usha a pu tester sur eux sa pratique et la perfectionner. La réputation de la brigade a grandi, dépassé les frontières du quartier, fait des émules dans les villes d'alentour. D'autres groupes se sont formés. Le mouvement a fini par gagner l'ensemble du pays. Décrié et conspué à ses débuts, y compris par sa propre famille, Usha est aujourd'hui salué et reconnu. On la cite en exemple à la radio, à la télévision, dans les journaux. On loue sa force de caractère et son pouvoir de résilience. Celle que l'on qualifie de lionne, de battante, est devenue un symbole, un modèle pour toutes les femmes qui refusent de se résigner et luttent contre l'oppression et la violence. En 10 ans, Usha a contribué à former plus de 150 000 filles au self-défense, mais son ambition ne s'arrête pas là. Tant que les femmes ne pourront pas marcher dans la rue en toute sécurité, je continuerai à me battre, répète-t-elle en multipliant les pétitions, les marches de protestation, les campagnes dans les lieux publics, les écoles, les universités. Son énergie est inépuisable et son combat, malheureusement, toujours d'actualité. Lorsqu'elle parle d'Usha, Pretty est intarissable. Ses yeux brillent d'admiration. Elle voue un véritable culte à la jeune femme qui a su transformer le trauma de son agression en mobilisation nationale. Elle se dit fière de se vêtir à son image, de manifester en son nom, de recruter comme elle des filles dans les villages. Bien qu'elle incite les autres à parler, à dénoncer les abus dont elles sont les victimes, Pretty ne s'étend pas sur sa propre expérience. Elle se contente d'évoquer ce voisin malveillant croisé le jour de ses 13 ans. Elle avoue la douleur, la honte, l'effroi aussi devant la réaction de ses parents qui, pour réparer le déshonneur de la famille, ont voulu la marier à l'homme qui l'avait agressée. Une trahison qu'elle n'a jamais pardonnée. Révoltée par l'indigne arrangement auquel il l'a poussée, elle a préféré fuir. Plus jamais ça, s'est-elle jurée. Elle est partie la nuit, chargée d'un maigre baluchon, laissant derrière elle sa maison et tous ceux qu'elle aimait, ses frères et ses sœurs et ses amis. Seule sur les routes, elle a eu peur. Elle a eu faim, elle a eu froid. Elle a vite pris conscience de sa vulnérabilité. Ici, les filles sont des proies. Elle tressaille aujourd'hui à la pensée de ce qui aurait pu lui arriver. Un peu partout dans le pays, des réseaux de prostitution enlèvent des milliers de gamines pour les envoyer dans le terrible quartier de Kamathipura à Bombay, où elles sont vendues, battues et asservies. On y trouve la plus forte concentration de maisons closes au monde. Le long de la célèbre Falkland Road, il n'est pas rare de voir des fillettes de 12 ans en cage. Les plus jeunes sont les plus chères et les plus prisées. Elles ne touchent pas de salaire. Elles doivent travailler à la chaîne, jour et nuit, durant des années, dans des conditions d'hygiène précaires, pour rembourser leur prix d'achat à la matrone du cloaque où elles sont enfermées. Un esclavage sexuel assorti de mauvais traitements sur lequel le gouvernement ferme les yeux. Parfois surnommé le paradis des hommes, l'endroit est assurément l'enfer des femmes. Les trafiquants peu scrupuleux savent où chercher leurs jeunes recrues et sillonnent sans relâche les villages pauvres et les usines à tapis, inépuisables viviers de leur commerce. Par chance, Priti a trouvé refuge dans un foyer tenu par une association locale œuvrant pour la protection des jeunes filles. C'est là qu'Usha lui est apparue à la faveur d'un reportage télévisé diffusé sur un vieux poste, un soir où, miraculeusement, l'électricité fonctionnait. Un témoignage en forme de révélation. Dès le lendemain, Priti a contacté les leaders de la brigade locale et elle s'est enrôlée. Au cours de sa formation, elle a pu rencontrer Usha en personne et la remercier. Élève assidue, elle s'est révélée douée pour le self-défense. Elle a rapidement progressé et gravi les échelons. Aujourd'hui, à la tête de sa propre brigade, elle est heureuse d'aider les autres, comme elle-même a été aidée. Sa troupe est devenue sa famille. De cette grande chaîne d'espoir et de solidarité, elle se voit comme un petit maillon, dérisoire et pourtant essentiel, une main tendue à d'autres mains liées. Chaque soir, avant de se coucher, elle regarde la photo d'Usha punaisée au mur, dont les yeux semblent la fixer. Elle puise en cette image la force de continuer. Son idole lui transmet son courage et sa volonté. Elle guide chacun de ses pas. C'est ainsi. Priti ne croit plus en Dieu, mais elle croit en Usha. Aux yeux de tous, elle est cette jeune femme fière, sans complaisance et sans pitié, qui ne laisse rien paraître de sa fragilité. Un jour, pourtant, elle avouera à Léna qu'après certains témoignages d'agression la ramenant trop durement au passé, elle rentre seule le soir au garage et elle se met à pleurer. Ses larmes, elle ne les montre pas. Elle reste là, cachée derrière les parpaings et la tôle ondulée. De séance en séance, Léna apprend à connaître cette fille farouche, au caractère bien trempé, dont elle ne tarde pas à comprendre qu'elle est semblable à son thé. Rugueuse et abrupte au premier abord, Priti révèle des nuances et une sensibilité insoupçonnée que Léna se surprend au fil du temps à apprécier. Chapitre 9. Comment se faire comprendre d'une élève dont on ne parle pas la langue? Comment lui expliquer des mots qu'on ne sait pas nommer? Auprès de Lalita, Léna ne tarde pas à mesurer la complexité de cette tâche. Malgré ses 20 ans d'expérience, ce nouvel exercice relève du défi. Elle sait qu'elle ne pourra se reposer sur ses acquis. Il lui faut établir un programme. Elle se met au travail d'arrache-pied, s'aidant d'illustrations et de dessins, de méthodes trouvées sur des sites qu'elle passe ses nuits à consulter. Elle pense à Usha élaborant sa propre technique de combat, comme Priti le lui a raconté. Elle aussi doit choisir ses armes, faire preuve d'inventivité, s'adapter si elle veut remporter la bataille. L'intelligence et la vivacité d'esprit de l'enfant sont ses meilleurs alliés. Ensemble, elles développent une forme de communication faite de gestes, de regards, d'expressions qu'elles sont les seules à décrypter. Tel un dialecte nouveau qui n'aurait pas besoin de mots pour être compris ni parlé. Il arrive que James et Marie les observent, circonspects, les regardant s'agiter autour d'un carnet. Ils n'interviennent pas, ne s'immiscent jamais dans leurs échanges. Ils se contentent d'y assister en spectateur muet avant de retourner à leurs activités. Lalita progresse plus vite que Léna ne l'avait espéré. Elle est animée d'une curiosité, d'une soif d'apprendre qui étonne sa professeure et parfois la dépasse. Piochant dans la boîte de crayons que Léna rapporte un jour du marché, la fillette commence à dessiner. Elle se met à raconter son passé en images. Elle esquisse un village, des femmes portant des paniers, des hommes chassant des rats dans les champs. Elle se représente le soir avec ses parents, dormant près d'eux, serrés contre sa poupée. Elle livre aussi d'incroyables voyages que sa mère et elles ont entrepris depuis le nord du pays. Ses dessins figurent un bus, un train surpeuplé, des villes inconnues, le temple immense où elles se sont arrêtées. L'un d'eux, en particulier, retient l'attention de Léna. On les voit toutes deux arriver au village, le crâne rasé. Léna a entendu parler de cette coutume ancestrale du don des cheveux, offert en hommage aux dieux. Ceux de l'enfant ont repoussé. Ils sont à nouveau longs et épais. Sous les traits de crayons maladroits, Léna voit défiler la vie de la fillette, une succession de renoncements et de séparations. Lorsqu'elle saura écrire plus tard, Lalita lui confiera son vœu le plus cher. Devenir conductrice de bus pour refaire le chemin à l'envers et retourner là-bas, dans son village, auprès de son père. Quelques semaines après la première leçon de Priti, il se produit une chose étrange. Léna voit débarquer au garage deux filles de la brigade qu'elle connaît pour les avoir souvent croisées. Celle-ci lui demande l'autorisation d'assister au cours d'anglais. Elles promettent de ne pas faire de bruit, de ne pas déranger. Elles voudraient juste écouter. Un peu étonnée, Léna n'ose refuser. Elle les laisse s'asseoir face au tableau improvisé. Deux séances plus tard, elles sont cinq à s'installer sur le tapis. L'une est venue avec sa sœur, l'autre avec une amie. C'est bientôt une dizaine de filles qui prend place dans la salle. Les jeunes recrues suivent Léna des yeux dans un silence quasi religieux, buvant ses paroles comme celles d'un demi-dieu. Léna s'amuse de les voir si sauvages à l'entraînement et si sages ici. Certaines lui déposent un cadeau en fin de séance. Des idlis, des petits pains de riz et de lentilles cuits à la vapeur, ou des chapatis. D'autres se proposent de lui faire visiter la région, de l'amener au temple du rivage ou aux grottes de Varaha. L'une d'elles offre même de lui enseigner le Nishastrakala. Léna décline en riant. Elle n'a pas l'âme d'une guerrière. Elle préfère plus classiquement la natation ou le yoga. La nouvelle se répand bientôt dans les environs de Kahut, en maison en maison. Des filles se pressent devant le QG, d'autres hésitent à entrer. Toutes sont intriguées par cette étrangère qui offre ses services et son temps à qui veut en profiter. Il n'y a ni engagement ni obligation, aucun prix à payer, juste une heure à partager au fond de ce faubourg dans un garage désaffecté. Léna est la première surprise de cet engouement qui révèle le fort taux d'analphabétisme dans le quartier. La plupart des jeunes femmes qu'elle rencontre sont illettrées. Elle tente de leur faire suivre le programme de Lalita, mais se heurte à une difficulté de taille. À l'exception d'une poignée de filles assidues, les autres ne reviennent pas, ou occasionnellement. Elles sont happées par le quotidien, les tâches domestiques, la charge de leur famille, de leurs enfants, de leur travail, l'urgence de trouver à manger. Léna est vite débordée par l'assemblée nombreuse qui se presse aux portes du QG. Les têtes ne sont jamais les mêmes. Elle doit souvent reprendre ce qu'elle a déjà expliqué. Les leçons s'enchaînent sans se ressembler, la laissant de plus en plus confuse et insatisfaite. Elle finit par perdre son sang-froid. Un soir, elle confie à Pretty qu'elle ne peut continuer ainsi. « Il faut fixer des règles, » explique-t-elle, « établir des groupes de niveau. » Distinguer celles qui ont des notions d'anglais de celles qui partent de zéro. Les filles doivent s'engager à être plus régulières si elles veulent progresser. L'apprentissage de la lecture est un marathon, dit-elle. À ce jeu, mieux vaut un coureur de fond qu'un sprinteur occasionnel. Pretty comprend et s'emploie dès le lendemain à mettre de l'ordre dans les rangs. De son côté, Léna accepte d'augmenter la fréquence des séances, désormais quotidiennes. Celles qui ne peuvent y assister feront de leur mieux pour rattraper les exercices. Si certaines abandonnent, d'autres parviennent à se discipliner et font d'incontestables progrès. Pretty, en revanche, n'avance pas. Au bout de quelques semaines, et malgré des efforts constants, elle ne parvient toujours pas à déchiffrer les textes les plus simples. Au cours de ses années d'enseignement, Léna a côtoyé nombre d'élèves en difficulté et commence à soupçonner un problème sous-jacent, indépendant de l'anglais. Elle finit par en avoir la quasi-certitude. Pretty est dyslexique. Un obstacle de plus à surmonter. La jeune chef encaisse la nouvelle et jure de travailler davantage. La nuit, dans la solitude du garage, elle reprendra chaque mot, chaque expression, chaque idiome, jusqu'à ce que ceci lui devienne parfaitement familier. À l'entraînement, elle a l'habitude de répéter des centaines de fois les prises et les mouvements. Elle fera de même pour l'anglais. Léna admire sa détermination. Dans l'adversité, Pretty ne baisse pas les bras. Elle est comme le roseau luttant contre le vent. Elle plie, mais ne rompt pas. Chapitre 10. Le document est là, sous ses yeux. Léna contemple, abattue, la date d'expiration de son visa. L'échéance approche à grands pas. Bien sûr, elle le savait, mais elle évitait d'y penser, repoussait l'idée dans un coin reculé de sa conscience, comme on le fait d'une opération douloureuse que l'on espère ainsi naïvement différer. Elle tente de s'adresser au consulat français sans succès. Les autorités indiennes limitent la durée des visas touristiques à 90 jours, pas un de plus. Aucune prolongation ne peut être accordée. Léna ne sait comment annoncer la nouvelle à Lalita et à Priti. La perspective d'interrompre ce qu'elles ont entrepris l'accable. La fillette commence à comprendre l'anglais. Elle parvient à écrire quelques phrases. Quant à Priti et sa troupe, elles avancent aussi, plus lentement, mais avec courage. Une porte s'est ouverte dans leur esprit que le départ de Léna va immanquablement refermer. La manœuvre est cruelle. Elles ont entrevu la possibilité de s'instruire, d'accéder à un savoir qui leur était refusé. Après y avoir goûté, elles vont devoir y renoncer. Léna n'a pas mesuré la portée de son entreprise. Tout cela lui paraît vain aujourd'hui. Elle maudit son manque de clairvoyance et sa bonne volonté drapée d'inconséquences. Certes, elle n'a rien promis. Elle n'avait prévu ni l'accident sur la plage, ni la rencontre avec Lalita, ni la demande de Priti. Le lien entre elles s'est tissé au gré du hasard et des événements. Imperceptiblement, Léna s'est attachée à ce village et à ses habitants, malgré l'âpreté du quotidien. Une forme de connivence est née. Qu'aurait-elle dû faire? S'enfermer dans sa chambre d'hôtel en restant sourde à ce qui l'entourait? Feindre de jouer les âmes charitables en distribuant quelques billets? D'aucuns objecteraient que ce qu'elle a donné est déjà un cadeau, mais elle n'est pas du genre à se satisfaire d'un si mince argument. Une autre pensée la tourmente, plus insidieuse et beaucoup moins généreuse. Léna craint de retourner en France. Elle se demande ce qui l'attend là-bas. Depuis quelques jours, elle dort mal. Elle a le ventre noué. Ses cauchemars recommencent. Elle doit bien se l'avouer. La mission qu'elle s'est fixée ici n'est qu'une tentative déguisée d'offrir un dérivatif à son chagrin. Sous son costume de bienfaitrice providentielle se cache une femme terrorisée, peut-être plus fragile encore que ce qu'elle prétend aider. Elle ignore comment elle survivra à ce voyage qui la rend à elle-même au démon du passé. Sur la plage, elle explique à Lalita qu'elle doit s'en aller, retourner dans son pays. La petite ne comprend pas. Alors, Léna dessine un avion. Le regard de l'enfant s'éteint, comme la flamme d'une bougie qu'on viendrait de souffler. Dans ses yeux, Léna perçoit un mélange de désarroi et de tristesse, une forme de résignation qui la transperce. Elle déteste le rôle qu'elle est en train de jouer. Elle a voulu endosser le costume de la bonne fée et se retrouve au deuxième coup de minuit dans celui de la touriste qui s'enfuit. Elle a beau promettre qu'elle reviendra, la fillette ne semble pas y croire. Elle a connu tant de renoncements, tant de séparations. Elle a déjà perdu son père, sa mère, son village, sa religion, son nom. Et voilà que la vie lui enlève aujourd'hui la seule personne qui s'intéresse à elle et lui accorde de l'attention. La seule à la traiter non comme un être inférieur et muet, mais comme une petite fille intelligente et vive, douée de grandes capacités. En l'abandonnant au Daba ce soir-là, Léna sent son cœur se serrer. Elle donnerait n'importe quoi pour lui prendre la main et l'amener avec elle. Bien sûr, elle sait la chose irréalisable. Elle n'a aucune légitimité, aucun droit sur cette petite, certainement pas celui de l'arracher à sa culture, à sa famille, à son pays. Elle mentirait toutefois en disant que l'idée ne l'a pas traversée. Elle se prend parfois à rêver qu'elle l'inscrit à l'école en France et la regarde grandir, apprendre, jouer, parler peut-être un jour. Elle songe que le monde est mal fait. Elle-même n'a jamais eu d'enfant. François ne pouvait pas en avoir. Après 10 ans d'essais infructueux et de tentatives de traitement, ils ont envisagé d'adopter. Ont même rempli une demande d'agrément. Ils ont finalement renoncé devant la complexité des démarches et les nombreux obstacles à surmonter, considérant que leur métier d'enseignant leur donnait l'opportunité d'être entourés d'enfants et de se consacrer à eux à plein temps. Léna n'a pas de regrets. Cette vie, elle l'a choisie. L'amour de François l'a remplie, accompagnée, comblée durant toutes ces années. Ils n'ont jamais été parents, mais ont été tant d'autres choses. Amis, complices, amants. Ensemble, ils ont tant partagé. Ils se sont investis dans leur mission, multipliant les ateliers, les sorties, les cours de soutien, les échanges, les voyages scolaires, les spectacles de fin d'année. Ce chemin, Léna le referait à l'identique si elle le pouvait. Elle ne changerait rien. Rien, si ce n'est ce funeste après-midi de juillet. Le jour du départ, Pretty et les filles insistent pour la conduire à l'aéroport. Léna pensait prendre un taxi, mais elle ne veut pas les contrarier. Elle les regarde charger ses sacs à l'arrière des scooters et monte derrière Pretty. Elle arrive à destination dûment escortée. Devant les portes vitrées du hall, les adieux sont brefs. La chef n'est pas du genre à en s'épancher. En guise de salut, elle se contente de lui tendre la main. Léna sourit de ce geste, en apparence si anodin, dont elle saisit maintenant le sens et la portée. Dans l'avion, elle revoit les semaines et les mois qui viennent de s'écouler. Elle est prise de vertige à l'idée de regagner sa maison, silencieuse comme un mausolée où rien ni personne ne l'attend. Pour conjurer l'angoisse qu'elle sent monter, elle avale 2 cachets, tente de se caler dans l'inconfortable fauteuil de classe économique où elle est installée et ne tarde pas à sombrer dans un demi-sommeil agité, peuplé de visions étranges, de petites filles courant sur la plage ou de mères démontées. Malgré ses 20 ans d'expérience, c'est un vrai défi pour Léa d'enseigner Lalita. Comment enseigner une langue quand l'enfant ne sait pas, ne sait pas lire les mots? Elle doit inventer une méthode nouvelle, un peu comme la fondatrice de la brigade Usha ayant élaboré sa propre technique de combat. Mais Lalita est vive d'esprit. Elle se sent bien et elle est curieuse. Elle progresse rapidement, entraînant par cette curiosité. Puis, ce sont des membres de la Red Brigade qui assistent aux leçons de Pretty et les activités d'enseignement doivent être réorganisées car elles sont trop diverses. Et soudain, une date d'expiration sur son visa fait tout capoter. Léna avait oublié ce détail. Comment annoncer son départ? Comment laisser celle qui commençait à espérer au milieu du gué. C'est ce que nous verrons plus à fond dans les prochains épisodes du livre « Le cerf-volant » de Laetitia Colombani aux éditions Grasset. N'oubliez pas d'écouter l'émission « Je lis pour vous » mardi et mercredi à 21h30 et rediffusion lundi et mardi à 6h en direct sur Radio Alliance Plus 103.2 FM et DAB Plus ou en podcast sur le site www.radioallianceplus.fr. À bientôt, chers auditeurs.